Bonjour à chacune et chacun. Ça fait quelques, pour certains, paires de semaines qu'on ne s'était pas vus, puisque j'ai raté deux week-ends. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Pour ce matin, j'aimerais commencer avec un petit jeu. Vous savez, imaginez, vous avez un buzzer devant un buzzer. Hein, je vous donne une définition et vous devez... J'ai trouvé ce que c'était. Hein. Voilà, c'est pour moi, ça. Hein. Alors, qui suis-je ? J'ai été donné par Dieu aux humains pour qu'ils lui ressemblent. Mais je suis devenu une arme de destruction massive, provoquant la mort ou la détresse de millions d'êtres humains sur la planète au travers des siècles. Pas de bzzz. Ok, je continue. Ne soyons pas négatifs, je peux aussi faire du bien et le propager jusque dans les coins les plus reculés de notre Terre. Je peux transformer les ennemis en amis, les amis en ennemis. Je provoque des révolutions, mais je peux apporter la paix. Les pauvres et les riches me possèdent pareillement, même si je n'ai pas le même poids chez les uns et chez les autres. Certains ne vivent que pour moi, d'autres m'ignorent ou m'abandonnent. Je véhicule la vie et la mort. Qui suis-je ? Non ? Non ? Non, tout ça se pourrait peut-être, hein, mais non plus. C'était les paroles. Les paroles données par Dieu aux humains pour qu'ils lui ressemblent, mais c'est devenu quelque chose qui fait beaucoup de tort ou de bien. Hein? Ça provoque des guerres, des révolutions, ça peut provoquer le pardon aussi, ça peut amener des amis à se réconcilier, ou des ennemis à se réconcilier, pardon, mais aussi ça peut faire que des amis deviennent ennemis, etc. etc., etc. Hein? Les paroles. Alors, je ne vous ferai pas la petite chanson de Dalida, hein? Les paroles, les paroles, les paroles. Non, on évitera ça quand même. Mais au départ, la parole existe parce que Dieu pense. Hein, avant que nous soyons, avant que qui que ce soit existe, quoi que ce soit existe, Dieu est esprit et Dieu est une personne et Dieu pense. Et puis Dieu exprime ce qu'il pense, déjà dans le mystère de la Trinité. Hein. Et lorsque Dieu nous crée à son image, il y a beaucoup de choses là-dedans. Bien sûr, ce n'est pas une image physique. Mais une des choses qu'il nous donne, qui est assez extraordinaire, c'est qu'il nous donne la capacité de penser, alors pas comme lui, c'est sûr, hein, c'est le modèle réduit, mais quand même de penser, et il nous donne aussi la capacité d'exprimer notre pensée par le langage. Parce que les animaux pensent aussi, je ne sais pas exactement jusqu'où et quoi, mais c'est sûr qu'ils pensent, et ils communiquent, hein, mieux que nous d'ailleurs. Chez les animaux, la communication est rarement une source de malentendus. Ils savent ce que l'autre veut dire. Hein? Les gestes, les odeurs, toutes ces choses-là, les postures sont très précises. Par contre, pour nous humains, nous avons été bénis, et je ne peux pas dire maudits parce que c'est une bénédiction, mais bénis et affligés de la parole. Alors vous imaginez traiter ce sujet ce matin pour un incorrigible bavard comme moi, c'est toujours délicat. Hein ? Mais quand même, je vais essayer de continuer. Donc la parole existe parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, hein, Dieu dit. Hein, et puis la parole pour Dieu, elle est donc l'expression de sa pensée, mais aussi l'expression de sa volonté. Et elle fait des choses, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Dieu fait ce qu'il veut. J'aimerais juste corriger une chose aussi, c'est que souvent, nous les chrétiens évangéliques, quand on dit parole de Dieu, on pense à la Bible. Alors oui, la Bible est la révélation écrite de Dieu pour nous, ça c'est clair. Toute la Bible est vraie, c'est-à-dire que ce qu'elle dit est vrai. Hein. Elle ne dit pas tout sur tout, mais tout ce qu'elle dit est vrai. Mais la Bible n'est pas, à strictement parler, la parole de Dieu comme si c'était la troisième personne de la Trinité. Hein? Oui, c'est la pensée de Dieu communiquée par écrit pour nous, et Dieu nous parle au travers de la Bible. Mais la parole vivante et incarnée, c'est Jésus. Hein? Si vous relisez ce magnifique prologue qu'on a dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde ne l'a pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, etc. Vous connaissez ce texte qui est magnifique. Hein. Donc l'expression pour nous de la parole de Dieu, c'est venu par Jésus. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ce matin que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu, et elle est toute parole de Dieu. Mais la différence entre la parole et l'écrit, vous savez, moi j'aime les mots, j'aime écrire et j'aime parler. Voilà, j'aime tout. Mais ce n'est pas pareil, un écrit et une parole. Alors, on peut écrire une parole, bien sûr. Mais la parole, donc l'expression orale, implique que je sois à côté, ou en tout cas que j'entende. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a les téléphones, ça complique un peu les choses, ou d'autres moyens. Mais normalement, quand on parle à quelqu'un, on le voit. On est en face de lui. La parole fait partie d'un processus de communication qui inclut plus que les mots qui sont dits. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que c'est souvent, déjà que la communication est une chose extrêmement complexe et compliquée, mais alors en plus quand vous recevez un SMS ou un mail, pour peu que la personne ait oublié de mettre la petite icône à côté qui veut dire c'est une blague ou pas, ou je riais ou pas, vous ne savez pas si on vous insulte ou si on rit ou si... parce que vous n'avez pas la personne en face et vous n'avez pas l'expression du visage, vous n'avez pas tout le reste qui vous dit... Non, mais ouais, je dis ça comme ça pour dire, mais en fait, tu sais bien que je veux dire. Donc, la parole, ce n'est pas juste des mots, c'est quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez quand Dieu a créé l'homme et puis qu'il a dit, je ne peux pas le laisser tout seul, et il lui a dit, je lui ferai une aide semblable à lui qui soit son vis-à-vis. Qui se tienne en face de lui et qui soit son vis-à-vis. Pas à côté, pas derrière, non, vis-à-vis. Pourquoi ? Parce que pour parler, il faut être face à face. Si vous pensez dans l'Ancien Testament, il est parlé de Moïse qui parlait face à face avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Alors, ce n'était pas Dieu dans tout ce qu'il est parce que... On n'aurait même pas retrouvé quelques petits débris de poussière de Moïse. Mais il y avait toujours cette idée de face à face. Et c'est pour ça que dans l'incarnation, Jésus vient pour nous faire face en tant qu'humain. Parce que Dieu, on ne peut pas le cerner, on peut y réfléchir toute nos vies. Mais voilà, c'est trop abstrait, c'est trop grand, c'est trop... on a des idées dessus, on comprend un petit peu. Mais tandis que Jésus, Dieu se fait homme, il vient à notre niveau. Et là, on a un vis-à-vis qui est comme nous. Je sais que quand j'ai mal aux pieds parce que j'ai trop marché, Jésus sait ce que ça veut dire parce qu'il a eu mal aux pieds parce qu'il avait trop marché. Quand je me lève avec mal à la tête parce que j'ai pas assez dormi, je sais que Jésus comprend ce que ça veut dire parce que lui aussi des fois il dormait pas assez et puis il avait mal à la tête en se levant, c'est pour ça qu'il s'endormait dans la barque. Après il y avait des soucis, entre autres. Voilà. Donc la parole qui est un don extraordinaire de Dieu. Qui nous rend semblable à lui d'une certaine façon, mais elle est aussi, comme je l'ai dit dans la petite introduction, quelque chose qui peut être dangereux. Alors bien sûr, c'est pas la parole qui est dangereuse, c'est que la parole est l'expression d'un cœur qui n'est plus ce qu'il aurait dû être. Quand Dieu parle, ça peut pas faire de mal, enfin, ça peut, entre guillemets, détruire des choses mauvaises, mais il n'y a jamais de décalage entre la parole ou l'expression de Dieu et sa perfection. Donc il n'y a pas de souci. Pour nous, le problème, bien sûr, ce n'est pas que nous puissions parler, ça c'est super, c'est le fait que notre cœur contient le meilleur et le pire. Et c'est pour ça que notre langue peut être, ou notre parole peut être source de bénédiction ou de malédiction, peut tuer ou faire vivre, peut provoquer la paix ou la guerre. Je vous lis quand même pour juste rappeler que c'est pas, y a pas que moi qui pense ça. Un texte de Jacques, donc c'est la parole écrite, c'est plus vraiment de la parole, mais c'est de la parole et ça va le devenir par ma bouche. Jacques 3:2, vous connaissez tous ce texte, de verset 2 au 12. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Voilà, ça c'est Jacques qui nous disait ça il y a 2000 ans. Alors moi je dirais, quand même, il pose une question à la fin. Alors effectivement, un figuier ne fait pas des olives, une source salée ne fait pas de l'eau douce, mais de la même bouche, il sort le bon et le mauvais. Ça c'est vrai. C'est comme ça. Mais pourquoi ? En fait, nos paroles ne sont que le haut-parleur de notre cœur. C'est pas la langue qui est le problème. On sait très bien que si on se coupait la langue, on ne deviendrait pas meilleur. Ça serait peut-être plus agréable pour les oreilles de certains, mais ça ne nous rendrait pas meilleur. Et d'ailleurs, alors je ne dis pas ça pour m'excuser, mais ce n'est pas toujours les gens qui parlent le plus qui font le plus de mal avec leurs paroles. Si vous dites que deux paroles dans le mois et que c'est les paroles méchantes qui détruisent, ce n'est pas mieux que de parler trop qui n'est pas bien non plus. En fait, je réfléchissais, je fais une parenthèse. Le problème avec les bavards, c'est pas tant qu'ils parlent pas beaucoup, c'est qu'ils savent pas écouter. Ça, c'est plus grave. C'est un autre sujet. Voilà. C'est comme ça, c'est dit aussi. Alors, j'aimerais maintenant arriver à un autre verset que j'aime beaucoup, Ésaïe 50, verset 4. C'est une parole du prophète, mais que Jésus a reprise à son compte et qui s'adresse aussi à nous. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. J'ai toujours été frappé, chaque fois que je relis ce verset, par le début. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple attentif. Moi, j'aurais pensé qu'on parle d'abord de l'écoute, quoi. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui écoute. Mais il dit après, pour que je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Les deux sont forcément intimement liés. Mais on doit commencer par comprendre que, puisque la bouche est le haut-parleur du cœur, ce n'est pas la bouche qu'il faut essayer de maîtriser, ce n'est même pas le cœur qu'il faut essayer de maîtriser, mais il va falloir le laisser changer par Dieu. Là, je vous ai à peu près tout dit ce que je voulais dire déjà. On va le développer un peu, mais vous avez l'essentiel au cas où, d'un coup, il se passerait quelque chose. Parce que sinon, on va se battre contre des moulins à vent et puis on ne va pas y essayer. On sait, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes qui ont essayé, puisque la parole est mauvaise, de se retirer dans le silence. Alors, encore une fois, ça a évité que d'autres entendent des bêtises ou soient agressés, mais ce n'est pas ça qui rend meilleur. Je peux rester dans le silence à ruminer mon amertume contre le monde entier, à maudire tout le monde, à penser du mal. Alors oui, effectivement, je ne fais pas de mal aux autres, donc ça c'est bien. Mais pour moi, ça ne va pas mieux. Et puis, vu que je pense que c'est la vocation de pas grand monde ici de vivre une vie de silence complet et permanent, vivre en essayant toujours de contrôler ce qu'on dit, c'est aussi épuisant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler ce qu'on dit quand même un minimum, on devrait avoir déjà le filtre de la politesse, celui de la bienveillance, et puis voilà. Mais en même temps, si notre cœur est honnête et vit tranquillement devant Dieu, on ne va pas vite d'avoir tout le temps dans le stress, qu'une parole qu'on ne voudrait pas dire sorte. Je dis toujours, si on marche sur un tube de dentifrice, ce n'est pas de la mayonnaise qui sort. Quand on est pris dans une situation imprévue où on est bousculé, ben, les mots nous échappent et ce qui sort, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, tout simplement. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien qu'on sache, comme l'a dit Jacques, mais comme je le partageais à l'introduction, notre cœur est capable du meilleur et du pire. Quand je dis le meilleur, c'est vraiment le meilleur, et quand je dis le pire, c'est vraiment le pire. On a tous le potentiel pour devenir des gens absolument horribles, qui torturent les autres, etc. C'est une possibilité chez l'être humain, chez tous les êtres humains. Et on peut tous aussi faire énormément de bien, c'est une possibilité pour tous les êtres humains. Alors après, il y a les circonstances qu'on ne maîtrise pas, où on est né, ce qu'on fait, ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé, etc. Mais après, il y a tout ce que nous, on maîtrise, qui justement est le fait que, ben, un jour, on a rencontré Dieu, on vit avec lui, et puis on va le laisser changer nos cœurs. Et c'est pour ça que, souvent je dis, on n'utilise pas la discipline au bon endroit. Et puis je répète aussi que je suis naturellement quelqu'un de pas discipliné. Alors j'apprends la discipline. Mais il ne faut pas dépenser une énergie considérable pour discipliner ce qui ne peut pas l'être. On ne va pas changer qui on est, on ne va pas changer notre nature, on ne va pas changer notre tempérament. Par contre, Dieu peut changer notre cœur. Et si notre cœur est dans les mains de Dieu, alors on peut laisser aller le reste et se reposer. On est qui on est, puis c'est tout. On a besoin, dans la discipline, pas d'essayer d'être meilleur, pas de se dire « il faut que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse, il faut que je le dise, il ne faut pas que je le dise. » Vous savez, j'ai horreur de ces livres de recettes sur comment mieux communiquer avec votre épouse en 10 leçons. Ah, oh, mais c'est nul, mais c'est nul. En fait, personnellement, je trouve ça ridicule, quoi. Chaque être humain est différent, donc deux êtres humains, c'est deux univers différents. Comment on peut écrire des recettes sur ces choses-là, quoi ? Ou la solution, ça serait de mieux communiquer. Oui, merci. Non. Par contre, prendre le temps pour que notre oreille écoute matin après matin ce que Dieu a à dire à notre cœur. Laisser notre cœur être aimé par Dieu, laisser notre cœur recevoir aussi la correction, s'il faut, les directions, les instructions, pour que petit à petit, ben, il y ait plus de ces choses-là en nous et moins de ce qui n'est pas bon, pour que lorsque on va être pris dans l'action et que le pied va marcher sur le tube, ben, il va sortir ce qu'il y a dedans, et puis ben, il y aura plus de et moins de. Vous voyez ce que je veux dire. Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse un tout petit peu, je sais qu'on le sait, je répète des choses qu'on sait déjà, mais c'est important, l'importance des mots pour nous et pour les autres, forcément. C'est une évidence. Mais notre vie entière peut être orientée, conditionnée par des choses qu'on nous a dites ou des choses qu'on ne nous a pas dites. Et c'est ça qui est terrible avec la parole, c'est que autant il y a des paroles qui peuvent faire du mal pour toute une vie, parce que on le sait, hein, les paroles, on ne peut pas les récupérer. Vous pouvez les dire après, je suis désolé, je te demande pardon, hein, ça sert, ouais, c'est mieux que rien, il faut le faire. Mais on ne récupère pas les paroles. Ce qui a été dit, c'est dit, ça marque tout le temps. Et puis, on ne va jamais pouvoir s'empêcher de penser que, d'où quand même l'importance de tourner quelques fois notre langue dans notre bouche avant de dire des choses qui sont lourdes ou méchantes. Hein. Mais ce qu'on ne pense pas aussi souvent, c'est que il y a des gens qui souffrent toute leur vie parce que toute leur vie, ils attendent des paroles qui ne viennent jamais. Et cette absence-là, c'est autant de la maltraitance que d'insulter quelqu'un. Je suis toujours, maintenant non, je ne suis pas surpris parce que j'arrive à cet âge-là, mais quand j'étais un plus jeune pasteur, et je peux parler avec des gens beaucoup plus âgés que moi, et puis je voyais des gens qui arrivent à la fin de leur parcours sur terre, et leur grande question c'était, je ne sais pas si mon père m'a aimé, ou je ne sais pas si ma mère m'a aimé. Puis je me disais, mais Comment ça peut être la question de quelqu'un de 70 ans, 80 ans, 85 ans? Ça doit être réglé depuis longtemps, cette chose-là, non? Et alors, dans certains cas, je connaissais la famille ou je ne connaissais pas, mais le problème, au-delà du fait que le parent ait réellement aimé ou pas, ben, la personne qui était là était avec cette question qui ne serait jamais résolue parce qu'il y avait des mots qui n'étaient pas venus. Alors, il n'y a pas que les mots pour dire qu'on aime, hein, je suis d'accord. Hein. Et puis, les mots ne suffisent pas si les actions disent le contraire. Donc, il y a tellement de sujets qui sont liés avec ça. Mais quand même, parce que Dieu nous a donné la parole, on a la responsabilité donc, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas dire des choses qui détruisent, mais on a aussi la responsabilité de dire certaines choses. Et ça, c'est encore autre chose. Parce que là aussi, comme la parole est le haut-parleur du cœur, si je dis des choses et que je pense le contraire profondément, ça ne sera pas non plus positif. Et vous voyez pourquoi il faut toujours qu'on revienne au point de départ et dire à Dieu, comment je peux aller dire quelque chose de gentil, d'encourageant, d'édifiant à cette personne, alors que quand je la vois, j'ai les poils du dos qui se hérissent, j'ai les cheveux que j'ai plus qui se dressent sur la tête et j'ai envie de l'étrangler et d'y arracher les yeux. Si je vais la voir et que je lui dis sois béni, je t'aime, tu es merveilleux. D'abord, un, je suis un menteur, un hypocrite, mais deux, c'est évident que la personne ne va pas être convaincue par mon message. Ça ne se peut pas, ce n'est pas vrai. Hein. Et en même temps, aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, je ne sais pas pour vous, moi je ne sais pas le faire. Hein. Ça ne s'abrique pas. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Toujours la même chose, retourner à Dieu, dire Seigneur, je veux bien que tu le fasses, ou je te donne la permission de me donner envie que tu le fasses. C'est le point de départ. Hein. Ça va loin. Hein. J'ai pas envie et j'ai pas envie que tu le fasses, mais je te donne la permission de me donner envie de le faire. Et puis quand j'aurai envie, je vais encore te demander de le faire. Et puis voilà. Et on va vivre comme ça. Mais c'est tellement important de réaliser ce que nous avons avec nos mots, dans un sens et dans l'autre. Je pense à des situations où j'aurais pu m'effondrer et puis une parole de quelqu'un me revient et j'ai de la force et je peux aller de l'avant. C'est une vraie nourriture. Hein. Et puis pour tous ceux qui sont parents, c'est un défi incroyable avec nos enfants parce qu'on ne se rend pas compte. On a beau tous le savoir, on a tous été enfants avant d'être parents. On a tous dit « je ne referai pas comme mes parents ont fait ». Et on a tous fait comme nos parents ont fait, pas dans le même domaine forcément, mais parce qu'on est humain. Hein. Et des choses qui peuvent être une plaisanterie, par exemple, pour les parents, et qui peuvent vous marquer pendant des années. Hein. Moi, je peux le dire, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est réglé depuis longtemps, mais j'ai grandi, mon père sait tout faire avec ses mains, absolument tout. Le fer, le bois, l'électricité, les maisons, les voitures, il sait tout faire. Et mon frère était comme lui. Et moi, je suis né avec deux mains gauches. Et puis, j'ai grandi avec cette expression, quand on parlait de moi dans la famille, mais ce n'était pas méchant. Hein. Ah, Philippe, alors, il y avait deux expressions. Une, c'était, il a deux mains gauches. C'est vrai que je suis ambidextre. Hein. Mais donc, j'aurais pu avoir deux mains droites, mais j'avais deux mains gauches. Et il a des mains à faire des mottes. Vous savez ce que c'est, les mottes, hein? C'est quand la charrue retourne et puis qu'il y a ces gros paquets de terre, là. Voilà. Donc, j'avais deux mains gauches et des mains à faire des mottes. Donc, j'étais l'handicapé manuel de la famille. Et c'était compliqué. Et du coup, j'ai toujours pensé que j'étais incapable manuellement. Et puis, voilà. Puis après, la vie a fait qu'il fallait que je mette mes mains dans les choses. Et puis, il y avait des choses que j'aimais faire. Hein. La troisième phrase, c'était « Si avec ses mains, il est doué pour faire des choses qui ne servent à rien. » Parce que mon père et mon frère faisaient des choses utiles. Ils réparaient le moteur, ils réparaient la machine à laver, ils coulaient une dalle de ciment. Moi, je faisais des bijoux avec mes mains, je faisais des choses qui ne servaient à rien, quoi. Je faisais des cerfs-volants, des arcs, des frondes, des flèches, des trucs comme ça, quoi. Tous les trucs qui ne servent à rien. Et puis c'est amusant parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai donné des cours d'activité manuelle aux autres. J'étais payé pour donner ça. C'était très amusant. Et puis ben voilà, puis après, ben, des années après, c'est quelque chose, on en a parlé. Et puis, mais jamais mon père a imaginé qu'il m'aimait, il m'aime beaucoup. Il n'a jamais pensé que j'étais incapable, mais c'était juste, voilà, c'était une expression qui était devenue comme ça, c'était amusant. Et ça m'a poursuivi pendant des années. Et puis après, voilà, maintenant, c'est une blague et ça ne me touche plus du tout. Et j'ai les mains que j'ai. Bon, celle-là, elle est un peu... Hein, voilà. Mais ça, c'est une chose assez superficielle, quoi. Hein. Mais il y a des choses comme ça, beaucoup plus profondes, qui vont nous marquer toute notre vie. Mais en même temps, on a le pouvoir de faire tellement de bien avec nos mots et avec notre bouche. Et je dirais, des fois, on peut parler en silence aussi. C'est pour ça que c'est important de se rappeler que les paroles sont juste le haut-parleur du cœur. Hein. Lorsque les amis de Job ont été le voir, tant qu'ils se sont tus, ils ont été de bons amis. Quand ils ont commencé de parler, ça n'allait plus. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que c'est comme en musique. Hein. Enfin, moi, je suis pas musicien. Je ne sais pas lire la... Non, je joue la guitare, mais je ne sais pas lire la musique. Je ne connais pas le solfège. Voilà. Je suis analphabète dans la lecture musicale. Mais quand même, j'ai entendu dire que dans les petits signes qu'il y a sur le papier que vous lisez, il y a des signes qu'on appelle des silences. Ça veut dire que quand celui qui a écrit la musique, là, ce qu'il voulait, c'est que tout se taise. Et c'est pareil pour le langage. Dans la parole, le silence fait partie des mots, des fois. Des mots M-O-T-S. Des mots M-A-U-X aussi. Mais bon, ça devient compliqué. Voyez. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir, mais se rappeler, donc, je vais terminer, le lien qu'il y a entre notre cœur et puis ce qui s'exprime. Et c'est pour ça que la parole est quelque chose d'extraordinaire, parce que donc, c'est ce qui peut mettre deux personnes en relation. Deux ou trois ou quatre, mais on commence par deux, c'est déjà compliqué, tellement compliqué avec deux. Et avec tout ce qu'il y a derrière, pas juste des mots qui viennent, qui sortent, qui s'allument, mais il y a une personne qui vit quelque chose, qui a son cœur, qui vit avec Dieu, qui vit avec... Et puis il y a une autre personne qui est là, qui est en face. Et c'est important de réaliser cette chose-là et d'y accorder toute la valeur qu'elle a. Je ne suis pas quelqu'un de très riche matériellement, je ne suis pas pauvre non plus, j'ai ce qu'il me faut, hein, mais je sais que c'est quand je peux passer un moment avec quelqu'un et qu'on a réellement échangé et qu'on a pu expérimenter le fait que ce que sa bouche disait, c'est ce qu'il y avait dans son cœur, et ce que je disais, c'était ce qu'il y avait dans mon cœur, je repars en me disant, là, je suis multimillionnaire. Je suis riche parce qu'il ne me manque rien. Ça fait du bien. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toute cette personne. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle fait, c'est bien. Ça n'a rien à voir. Mais on rentre en communion, en relation. Des fois même, ça peut être entre guillemets, pas un conflit, mais on ne va pas être d'accord. Hein. On va argumenter l'un contre l'autre. Mais on est réellement entré en relation l'un avec l'autre. Et ça se passe par la parole. Et des fois, ça ne se passe pas à cause de la parole. Alors c'est là où c'est très compliqué. Je repensais à cette citation du Petit Prince quand il veut apprivoiser le renard, et puis qui dit « Et puis je... » Et le renard l'interrompt, il dit « Et tu ne diras rien, car le langage est source de malentendus. » Le langage est source de malentendus, c'est vrai. Vous connaissez cette... Je l'avais cherché, j'ai noté... On le cite souvent, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Hein ? Voilà. C'est un classique, mais il y en a beaucoup plus que ça en réalité. On pourrait multiplier ces choses-là. Hein ? Et c'est pour ça que d'une certaine façon, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se comprend, c'est un miracle. C'est magnifique. Il faut le célébrer. Il faut prendre les choses à l'envers. Parce qu'on vit à une époque où la soi-disant communication et les facilités de communication ont tué la communication, puisqu'on ne se rencontre plus. Je mets un mot, j'ai 10 000 personnes qui mettent un machin comme ça, et je suis content, mais j'ai rencontré personne, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu... C'est pour ça que je reviens toujours à cette image, vous vous rappelez, dans Avatar, quand, le film Avatar, hein, quand pour dire « je t'aime », ils regardent la personne et ils lui disent « je te vois ». Ah, j'aime ça. Ça, c'est du beau langage. Je te vois. Tu es là et je te vois. Alors, pas plus, mais je sais que ces dernières semaines, plusieurs fois, il y a des paroles qui me sont revenues, qui m'ont fait du bien. Comme ça, un petit truc, quelqu'un a dit à un moment, puis on est là en se disant, oh, pff, je suis tellement nul, qu'est-ce que je fais, hein, c'est ces jours où on se dit, pff, je ne peux même pas aller me pendre parce que la corde va casser. Il n'y a rien à faire ces jours-là. Quoi, hein. Si je reste couché, le plafond va me tomber sur la tête. Quoi. Et puis tout d'un coup, vous pensez à une parole aimable qui vous a été dite. Hein, et, ah, pff, ça fait du bien. Alors voilà, c'était simplement ce que j'avais à cœur, et puis vous encourager à vous parler, à nous parler, à parler avec Dieu, et puis à prendre le temps de le faire tranquillement. J'ai pu rencontrer Jean-Jacques cette semaine, on ne s'était pas vu de 3 mois, on a parlé de 2-3 petites heures, hein, pour nous c'est rien. Hein. Mais je suis reparti content, rempli, pas parce qu'on avait passé 3 heures à bavarder, parce qu'on avait parlé. Voilà, on s'est entendu, on s'est vu, on s'est... Ah, ça fait du bien. Hein. Et puis, je peux dire ça avec pratiquement la plupart d'entre vous ici, mais j'espère qu'on continue. C'est ce qui fait qu'on n'est pas juste un nom, un machin, un programme, des organes. Voilà, il y a des gens en face, on se voit, on se parle. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors Seigneur, merci pour ce don, mais aussi ce don dangereux que tu nous as donné de pouvoir parler, nous exprimer, communiquer, utiliser des mots. Merci parce que toi, tu nous communiques ta pensée par les écrits, mais aussi par tout ce que tu nous donnes, montres, et par les hommes et les femmes que tu as placés autour de nous. Et fais de nous des gens qui savent parler, qui savent dire les mots qu'il faut, les mots qui viennent du cœur et qui viennent de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que nous vivons de positif dans ce sens-là. Aide-nous dans tous les aspects où nous avons encore besoin de progresser, de grandir, d'aller de l'avant. Et rends-nous toujours plus conscience de l'importance des mots que nous prononçons, de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons. Et que nous puissions avancer avec ce que tu as prévu pour nous, parce que c'est le meilleur, en te faisant confiance et en sachant trouver les mots pour te remercier aussi, Seigneur.